Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. J'espère que ça se passe bien pour vous. Beaucoup de choses dans l'actualité aujourd'hui. Évidemment, cette histoire de chiens encore. Cette fois-ci, c'est une meute. Trois chiens qui ont attaqué une femme. Et semble-t-il, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais les secouristes qui sont arrivés sur les lieux ont été absolument choqués. Traumatisés même par ce qu'ils ont trouvé comme scène quand ils ont voulu secourir cette pauvre femme qui a été traitée aux soins intensifs. On dit qu'on craint plus pour sa vie, mais il paraît que c'était tellement traumatisant que même les secouristes ont eu de la misère à soutenir ce qu'ils avaient devant les yeux. Trois chiens qui ont attaqué. Je pense qu'on est tanné des histoires de chiens au Québec. En tout cas, moi, j'en peux plus. On en parlait vendredi, vous et moi, pendant une heure. Je vous encourage d'ailleurs, et c'est pour ça que je vous en parle maintenant, je vous encourage à aller réécouter cette entrevue. Je pense qu'on arrive en fin d'entrevue à une certaine conclusion intéressante qui pourrait peut-être être suivie comme solution par plusieurs municipalités au Québec. Alors, vous allez sur le site du 98.5, vous cliquez sur l'onglet « Émission Isabelle », vous allez dans « Archives » et c'est l'émission de vendredi dernier à 10h. Nous, aujourd'hui, en deuxième heure d'émission, on va justement revenir aussi sur une histoire qui est sortie ce matin dans l'émission de mon collègue Paul Arcand, une histoire que Maître Sylvie Schirm, avocate en droit de la famille, portait à notre attention, où on voit qu'il y a une jeune fille de 15 ans qui voulait en fait quitter la maison de ses parents pour aller vivre avec son frère de 22 ans qui visiblement est plus cool que les parents puis qui lui permettrait de sortir quand elle veut puis de faire ce qu'elle veut puis certainement pas en commençant par faire son lit. Bref, ça tombe bien parce que nous, en deuxième heure d'émission, je vais vous poser la question: comment vous voyez votre rôle de parent? Êtes-vous le clown de vos enfants? C'est-à-dire, êtes-vous plus un divertisseur, ami, qui laisse les choses aller parce qu'on veut pas être en chicane contre notre progéniture? Ça nous fait mal au cœur. C'est pas le fun toujours dire non, c'est sûr. Ou êtes-vous un éducateur? Êtes-vous un parent éducateur, genre Martin Larocque? Martin va être là. Il va nous dire, justement, c'est le titre de son nouveau livre, tu sais, quand t'éduques, éduque. Alors, on aura l'occasion aussi de discuter avec Suzanne Vallière, qui est psychologue, qui vient de sortir un guide des parents épuisés. C'est sûr que c'est épuisant, des enfants de même. J'ai hâte de vous entendre là-dessus. J'ai déjà plein de gens qui ont témoigné par écrit à isabelle@985fm.ca. En première heure d'émission, encore là, on est en plein dans le mille de l'actualité parce qu'il y a une histoire ce matin qui va peut-être faire jurisprudence, puis il y a peut-être des propriétaires qui vont nous appeler ce matin pour nous dire qu'ils sont pas contents parce que la Régie du logement vient de statuer. Il y a une propriétaire qui voulait interdire à une de ses locataires de fumer du cannabis thérapeutique, en fait, du cannabis, point. Puis la locataire s'est défendue en disant, ben, c'est du cannabis thérapeutique, ça me fait du bien. Voici le mot de mon médecin pour le prouver. Or, le mot du médecin, il était pas mal flou, de ce que je comprends. Mais ça veut dire, les amis, que ça va ouvrir... En tout cas, vous allez devoir ouvrir vos fenêtres, ça vous dérange. Puis ça ouvre toute une porte, parce que ça veut dire ça, que cette cause-là, ça peut vouloir dire, désormais, tu peux fumer dans ton logement, puis ton propriétaire peut pas te l'interdire. Il y a ce problème-là dont on voulait parler, mais il y a plus largement notre sujet. Comme c'est apparemment pénurie de logements au Québec, et en particulier dans la région de Montréal, on dit qu'environ 40% des ménages au Québec sont locataires. Vous êtes peut-être en ce moment en train de vous chercher un logement aussi. Les propriétaires ont le choix, mais en même temps, il n'y a pas tant de logements que ça. Est-ce qu'ils sont abordables? Ça, c'est une autre chose qu'il faut absolument aborder aujourd'hui. Et est-ce qu'ils sont salubres? La salubrité, la propreté, c'est un problème. Alors, on parle de tout ça ce matin avec nos invités. Hans Brouillette est directeur des affaires publiques à la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec. Bonjour, Hans.
Bonjour, Isabelle.
On vous a entendu ce matin sur l'histoire du pote.
Oui, écoutez, c'est un jugement choc. Ben, écoutez,
ben
ça, oui, en fait, les propriétaires ont obtenu, avec la modification à la loi l'an dernier, la nouvelle loi encadrant le cannabis, ont obtenu le droit d'interdire de fumer du cannabis dans leur logement pour assurer une harmonie entre locataires. Mais là, on a une juge de la Régie du logement qui dit, ben, la locataire, elle invoque que c'est bon pour elle, donc elle s'est auto-prescrit du cannabis médical. Alors moi, je lui accorde ce droit-là. Donc c'est une décision qui va évidemment avoir toutes sortes de conséquences, qui va probablement aller en appel d'ailleurs.
Avec nous également Marie-Josée Corriveau, qui est coordonnatrice au FRAPRU. Vous connaissez le FRAPRU, le Front d'action populaire en réaménagement urbain. Bonjour Marie-Josée.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Donc vous, en ce moment, vous occupez, d'ailleurs c'est le FRAPRU qui le fait depuis tellement d'années, vous occupez des locataires qui sont en position un peu précaire, le prix des logements qui augmente, ça c'est un enjeu important que vous défendez.
Oui, et qui est doublé du fait qu'il y a de moins en moins de logements disponibles sur le marché, notamment pour les familles, ce qui crée une nouvelle pression sur le prix des loyers pour les gens. Et évidemment, ce qui a des conséquences sur la réalisation de leurs autres droits.
Fait que vous vous dites, c'est pas facile en ce moment de se trouver un logement pas cher et propre de surcroît, en plus.
Ça fait déjà un moment que les locataires, surtout les plus vulnérables, se plaignent de l'entretien des immeubles. Ils sont tout souvent obligés d'habiter dans des logements peu ou mal entretenus. Et à l'heure actuelle, il y a le problème de l'accessibilité des logements pour les familles, comme je le mentionnais. Et comme je vous le disais, ça se fait... Pour payer un loyer à l'heure actuelle, tu coupes sur autre chose, puis autre chose de fondamental, que ce soit la nourriture, les médicaments, les fournitures scolaires.
Oui, puis des fois, tu acceptes aussi que ton logement soit pas si aussi propre que tu l'aurais souhaité.
Ben, c'est là pas où... le choix, sinon tu te retrouves à la rue.
C'est ça. Ouais, c'est là où intervient mon invité, Harold Lévy, spécialiste en gestion parasitaire chez les entreprises Maheu Extermination. Bonjour, Harold.
Bonjour.
On a de la misère à faire le ménage ou il y a trop de bibittes puis on a comme on n'est plus capable d'en venir à bout. C'est quoi le problème à Montréal? Puis au Québec, en général, il n'y a pas qu'à Montréal.
C'est un peu de tout. Finalement, c'est un problème qui est très vaste.
Y a-tu trop de monde pas propre?
Oui, il y a tout ça. Il y a un problème très vaste. Il y a beaucoup de logements que les propriétaires n'entretiennent pas correctement. Puis effectivement, la plupart du temps, c'est des logements qui sont pour les personnes les plus vulnérables. Et il y a de plus en plus de gens vulnérables. Finalement, que ce soit les réfugiés qui viennent juste d'arriver et qui n'ont rien devant eux, ou les gens qui ont des problèmes de santé mentale, les gens qui ont des problèmes de consommation, les gens qui vivent dans la grande pauvreté. Tous ces gens-là, finalement, se retrouvent dans des situations où tenir un logement insalubre devient difficile. Ça devient difficile de contrôler un problème de punaise ou de blatte dans un logement quand on te renvoie à toi le problème et que tu as à peine ce qu'il faut pour manger. C'est assez clair. Puis il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de gérer ces problèmes-là. La désinstitutionnalisation a fait des choses absolument affreuses. Je rencontre à tous les jours des gens...
Le fait de sortir les gens des instituts psychiatriques, par exemple.
Mais c'est correct à quelque part. Il y a plein d'organismes comme Ma Chambre ou Chambre Claire, etc., qui s'occupent de ces gens-là d'une façon extraordinaire. C'est des gens qui sont retournés en logement, mais qui sont avec quelqu'un qui s'occupe d'eux dans l'immeuble.
Mais Harold, en même temps, il n'y a pas que des gens qui ont des problèmes de santé mentale puis qui sont ultra pauvres comme locataires dans la grande région de Montréal. Et pourtant, ça dépasse ce profil-là, il me semble, non?
Mais ça, c'est en nette augmentation. Des gens qui sont incapables de gérer leur logement correctement pour toutes sortes de raisons, c'est en nette augmentation.
Hans, peut-être là-dessus? Harold vient de dire les propriétaires n'entretiennent pas leur logement parce que quand ils voient du monde de même, ils se disent, bien là, ce que je fasse, ça sert à rien.
Bien, écoutez, il y a trois catégories, là. Il y a bien sûr, il y a des locataires incapables de s'occuper de leur logement pour différentes raisons. Donc, ça devient insalubre. Vous avez des propriétaires qui, je placerai en deux catégories. Vous avez des propriétaires qui veulent améliorer, rénover, avoir des logements de qualité, mais ils sont incapables de le faire parce que il est impossible de rénover un logement au Québec aujourd'hui avec les critères de la régie du logement. Ça prend 37 ans pour amortir le coût des rénovations. Donc, je peux pas l'améliorer. Et même si je pouvais, est-ce que le locataire va être capable de payer? C'est un autre problème.
Hein, permettez-moi quand même. Le locataire n'est pas là pour payer toutes les améliorations du logement et de la propriété non plus.
On ne parle pas d'amélioration. On a des immeubles qui datent des années 50, 60, 70. On n'en est plus à changer les planchers ou les comptoirs, là. Dans les murs, il y a de la tuyauterie qui fuit. Vous avez des fenêtres à changer, de l'isolation déficiente, des toits qui coulent. Donc, ce sont des travaux majeurs qui n'ont pas été faits au fil des ans.
Mais c'est au locataire de le payer?
C'est sûr que ce n'est pas le propriétaire. Il ne vit pas là. Donc, lui, il doit retrouver son logement. Oui, je sais,
comprends en partie. Ouais. J'ai été propriétaire. Je comprends ce que vous voulez dire. Mais en même temps, ça ne peut pas être refilé au complet. Vous dites qu'il n'y a qu'une petite un petit pourcentage qu'on peut vraiment avoir. Peut-être qu'il en faudrait un petit peu plus, mais on ne peut pas demander non plus aux locataires de payer pour les améliorations locatives.
Les loyers au Québec sont à peu près 30-40% moins chers qu'au reste dans le reste du Canada, mais il faut quand même payer les matériaux. Les coûts de main-d'œuvre ont augmenté aussi. Donc, on est dans une impasse qui fait qu'il y a beaucoup de logements aujourd'hui qui sont convertis. Il n'y a plus d'intérêt de les louer. Donc, il y a des propriétaires qui les occupent ou les revendent en condo. C'est vraiment en train de se transformer. Et oui, il y a une crise du logement qui est en train de s'amorcer.
Marie-Josée Corriveau?
Bien, d'abord, ce que je dirais, c'est que si les loyers sont moins chers au Québec, c'est pas par rapport à l'ensemble du Canada. Le tiers, c'est par rapport à Toronto et Vancouver. Les marchés de Toronto et Vancouver ont fait rêver plusieurs investisseurs et il y a eu de la résistance ici, de la part des locataires, notamment avec leurs organisations, pour contrer cette financiarisation-là du logement. Ça reste un droit fondamental, un besoin essentiel, tout aussi important que la nourriture et que l'éducation et que la santé. Donc, une résistance qui a permis, entre autres, d'avoir des lois qui, ici, permettent de contrer un tant soit peu, je dis bien, les hausses abusives de loyers. Le problème en période de location de pénurie de logements comme celle qu'on connaît à l'heure actuelle qui traverse Montréal, mais pas seulement que Montréal, également plusieurs autres régions du Québec, c'est que les propriétaires ont le gros bout du bâton et exercent une pression indue sur les locataires. Moi, j'entends des histoires horribles depuis 2 semaines, 3 semaines, depuis le début de l'année, notamment un propriétaire avocat qui va voir des locataires et leur demande de leur demande 100 $ et plus d'augmentation de loyer et sous prétexte que les augmentations antérieures ont été faites par lettre et non pas en signant des nouveaux baux, prétend que ces ménages-là ont pas le droit d'occupation et évoque son propre droit à les évincer. Les gens sont paniqués, évidemment. Heureusement, ils peuvent compter sur les comités logements et les associations de locataires pour obtenir de l'aide là-dessus, mais force est de reconnaître qu'il y en a qui réussissent. La preuve en est qu'à l'heure actuelle, les loyers augmentent plus vite que le taux d'inflation et évidemment beaucoup plus vite que la capacité de payer des locataires. Donc, on se retrouve dans des situations épouvantables qui aggravent encore davantage les problèmes dont parlait M. Lee.
Mm-hmm. On va aller à la pause là-dessus. Il y a déjà beaucoup de gens qui m'écrivent. isabelle@985fm.ca. Vous pouvez m'appeler, bien sûr, c'est le but de la chose. On va discuter avec vous à savoir est-ce que si vous êtes en situation, là, soit vous êtes un propriétaire puis vous essayez de trouver des bons locataires, soit vous êtes un locataire puis vous dites, mon Dieu, les logements propres, abordables, ça court peu les rues au Québec et dans la région de Montréal en particulier où on semble dire qu'il y a une crise du logement. Vous me direz quelle est votre expérience de la chose. 514-790-9850 et sans frais partout, vous faites le 1-866-790-9850. À tout de suite tout le monde. Alors, est-ce que c'est facile de se trouver un logement propre et abordable à Montréal, sur l'île? Évidemment, ça l'est de moins en moins. Autour, dans la grande région, ça s'en vient aussi critique. Caroline, vous êtes locataire. Bonjour.
Bonjour Isabelle. D'abord, j'aimerais vous remercier pour votre émission.
Merci à vous.
Oui, en fait, moi, j'ai aménagé dans mon super logement, là, voilà, déjà 3 ans. Et puis, le propriétaire était heureux d'avoir quelqu'un qui était pour rester là longtemps. Mm-hmm. On payait 8,40 par mois. Et l'année suivante, il a décidé de vendre. Alors, on s'est retrouvé avec des nouveaux propriétaires qui, eux aussi, nous ont augmenté à 8,90. Et l'édifice étant récent, moins de 5 ans, il y a une section F. Même le Code civil a la même portion qui dit qu'il est dans le droit d'augmenter le loyer du prix qu'il décide. Et j'ai 2 choix, accepter toutes les clauses ou refuser et déménager à la fin de mon bail.
Sauf que...
de 310 $ par mois.
Oh mon Dieu, 310 $ par mois?
Oui, madame, le tiers de mon loyer.
Mais non, mais là, si vous allez à la régie du logement, Caroline, c'est sûr que vous allez être déboutée. Je ne sais pas pourquoi. Ah, Marie-Josée
Corriveau
m'a dit
non. Mais
non,
madame, c'est la section F. C'est la section F, c'est la pire atrocité qui existe dans le Code civil.
Attendez, expliquez-nous ça, parce que moi, je n'en reviens pas.
Je suis encore en train de travailler pour découvrir c'est quoi les faits.
Marie-Josée,
mais ça dit qu'un édifice de moins de 5 ans peut être conclu là, comme étant
Ça touche les édifices de moins de 5 ans, donc. Marie-Josée, exactement. C'est ça? Vous confirmez que c'est possible?
Oui.
Et si on va devant la régie logement, puis il n'y a rien à faire. Hans Brouillette, vous confirmez aussi?
Je confirme. 840 quelque chose
890?
Non, mais avant 840, je pense. Quelque chose qui a moins de 5 ans, ça m'apparaît être quand même très abordable. Je comprends que pour le propriétaire, il dit « Oups, là, je suis pas dans le marché, là, j'y arriverai pas ». Alors oui, l'augmentation est permise, mais en autant que le locataire en est informé dès le départ. Donc, c'était bien écrit dans le bail. Alors, c'est sûr là, que...
ils ont coché la section F, monsieur, mais il n'y a aucune information, même en ligne, même la régie, il n'y a pas d'information. Le Code civil dit exactement la même chose, qu'ils ont le droit, point final, on ne peut pas débattre.
Il y a un problème qui s'ajoute à celui-là, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de registre qui permette effectivement pour les locataires de s'y retrouver. C'est une des revendications notamment de l'autre regroupement qui est le regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec.
Qu'est-ce que vous voulez dire, un registre pour se retrouver?
C'est-à-dire qu'il n'existe pas de registre des loyers, il n'existe pas de registre du marché locatif.
On ne sait pas combien l'autre payait avant, c'est ça que vous voulez dire?
Non seulement ça, mais on ne sait pas ce qui était locatif, ce qui est en train de se perdre, ce qui permettrait notamment de piloter un peu plus la pénurie qu'on a à l'heure actuelle. Il y a de la construction pourtant à Montréal. Hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas de construction.
Mais quand c'est neuf, justement, c'est difficile.
Ouais. Ben, si les locataires, en toute connaissance de cause, pouvaient avoir accès à cette information-là autrement que par une phrase ou un paragraphe plus ou moins abscon du bail fourni par le gouvernement. Donc, ça permettrait aux gens. Et qui plus est, ça permettrait aux gens de mesurer le risque qu'ils prennent dans une période où il y a pénurie de logement.
OK, Mme Corriveau, d'accord. On pourrait s'assurer maintenant que tous les propriétaires l'indiquent bien dans le bail quel était l'ancien loyer. Hein? Puis si il l'a bien indiqué, ben le locataire n'a pas de recours
mais
après avoir signé
déjà.
Le bail.
Il n'y a pas une phrase qui
oui,
dit « voici
oui,
ce que
payait
la... »
Oui, mais il y en a qui ne le font pas. Non, quand c'est rénové, il y en a qui ne le font pas. Mais savez-vous quoi? On serait d'accord. On s'assure que tout le monde marque ça dans le bail. Mais le locataire n'a pas, une fois qu'il a l'information, n'a pas le droit ensuite
de vouloir
contester le bail et le loyer qu'il a pourtant signé. Sinon, on vient vicier une entente sur la principale clause du contrat, qui est le montant du loyer. Vous voulez le savoir?
Non.
Si le chiffre est indiqué, vous avez loué en toute connaissance de cause, alors on
oui, parce qu'en ce moment, il y en a qui signent des baux, ils savent combien le locataire payait avant, ils savent qu'il y a un puis se dit, je vais aller contester, comme ça, je vais avoir une baisse de loyer.
À moins que ce n'est pas ça que Mme Corriveau veut. Est-ce que c'est l'information
veut, c'est
que
la règle de la régie du logement. Qui fixe les loyers en fonction des dépenses. Mais en fonction des dépenses, l'objectif, dans le cas du logement, ça ne devrait pas être de faire du profit, ça devrait être de permettre aux gens de se loger.
On va
un
tout
besoin fondamental.
Au gouvernement. Le gouvernement va socialiser le logement au Québec. Est-ce que ça vous conviendrait, ça?
On ne demande pas la socialisation du parc de logement.
Taxi,
ce qu'on vous dit, c'est qu'à
l'heure...
Oh, voyons donc.
Les propriétaires
on parle pas
sont
de la socialisation
du
taxi à l'heure actuelle.
Là.
On parle simplement de s'assurer qu'il y a des règles qui garantissent aux locataires d'avoir des conditions de vie décentes à un prix véritablement abordable. Parce que le problème de l'abordabilité, c'est que c'est élastique. Hein. Ce qui était abordable pour les uns, il n'est pas pour les autres. Et à l'heure actuelle, le logement est devenu un enjeu pour faire strictement du profit.
Non,
et le plus rapidement possible, au même titre qu'on
logements.
Voulait en faire sur les pétrolières ou qu'on voulait en faire sur le marché des nouvelles technologies, on est en train de faire planter littéralement le droit au logement. Les propriétaires doivent absolument assumer leur responsabilité d'entretenir convenablement, de respecter les règles à régie du logement pour fixer les loyers. Et là, les locataires vont être en mesure, effectivement, probablement beaucoup mieux et beaucoup plus facilement de s'assurer que leur logement demeure insalubre quand c'est leur responsabilité.
Oui, parce que pendant ce temps-là...
N'oublions pas la responsabilité des propriétaires au niveau de l'insalubrité.
Parce que pendant ce temps-là, Harold Lévy, pendant que ça chicane comme ça, entre locataire et propriétaire, les Coquerelles, elles, ils ont du foin.
Oui. et eux, ils n'ont pas de problème de coût de loyer.
De cohabitation.
Pour cohabiter.
Ouais. Non, est-ce que vous regardez ça un peu comme observateur? Vous ramassez les dégâts, mais cette chicane propriétaire-locataire finalement fait en sorte que le marché du logement à Montréal, est-ce qu'on peut dire qu'il est en décrépitude? Puis que, étant donné que les propriétaires se disent, ben là, moi, regarde, je rénove rien, étant donné que je vais avoir des locataires qui vont tout le temps... essayer de négocier le loyer, puis les locataires disent, ben moi, regarde, je l'arrange pas le logement, que le propriétaire s'arrange, puis vous, vous y allez, puis vous ramassez les dégâts.
Moi, de par mon travail, finalement, je suis un peu un observateur.
Ouais.
Ce que je peux dire, par exemple, c'est qu'autant au niveau des propriétaires qu'au niveau des locataires, ce qu'on remarque, c'est que la majorité quand même des logements et des locataires sont des gens très corrects, puis je veux dire, tout est très correct. C'est la minorité, par exemple, qui, elle, agrandit tout le temps. Il y a quand même de plus en plus de logements qui sont laissés à l'abandon. Moi, je ne sais pas les raisons, mais je sais. Et souvent, c'est dans des grandes compagnies qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de logements où on retrouve encore plus ce problème-là de logements qui sont laissés à l'abandon, de locataires qui sont souvent pas respectés dans les logements.
C'est ceux qui en font une business.
Une
là,
grande. Ouais. Les propriétaires d'immeubles, encore là, je suis pas un spécialiste, je suis un observateur.
Ouais.
Les propriétaires de petits immeubles, souvent, c'est pour eux un revenu, c'est un fonds, c'est une pension, le fonds de pension qu'on fait. Et finalement, ils s'occupent bien de leurs immeubles parce que c'est important. Les immeubles, les propriétaires de grands ensembles, c'est souvent là qu'on retrouve les logements mal entretenus, etc. Puis il y a une espèce de cercle vicieux. Les logements mal entretenus, les gens qui y habitent, rendus au bout, là, quand on a un immeuble qui a passé aux nouvelles pendant 3 ans ou 4 ans, comme c'est mal entretenu, finalement, les locataires qui restent à la fin sont aussi les locataires qui sont souvent les locataires problématiques, parce que, je veux dire, ils acceptent...
Les bons sont partis.
Partis et ils acceptent de vivre dans ces conditions-là.
Ouais.
Mais le pire qui peut arriver, c'est un bon locataire qui arrive dans un immeuble où il y a un bon propriétaire, puis que parce qu'il y a à quelque part un logement qui, lui, est problématique, cause des emmerdes de tout le monde.
Exact.
Et ça, souvent, c'est extrêmement difficile à régler.
Ouais.
Parce que les lois, les règlements municipaux, etc.,
les délais judiciaires aussi,
permettent pas de faire avancer ces dossiers.
Ouais, fait que ça peut être une personne qui a des gros problèmes, un enjeu de punaise de lit, qui en a sur lui. Vous m'avez déjà montré des photos où on voyait quelqu'un qui en avait plus de 1000. On les comptait même plus.
Tout à fait.
Et cette personne-là n'est pas capable d'être délogée pour toutes sortes de raisons ou d'être traitée également. Ou bref, on n'arrive pas à circonscrire le problème, ce qui fait que ça se répercute. Puis des fois, les gens qui viennent et qui repartent par découragement, ils ont eu le temps d'en amener des punaises de lit ailleurs aussi. C'est pour ça que ça se propage, non?
Puis les problèmes, souvent, oui, tout à fait. Les problèmes dépassent, finalement, juste la responsabilité du propriétaire puis même du locataire.
Ouais.
Je vous donne un exemple. Dans le dernier documentaire qu'on a fait à Ville-Saint-Michel, on a vérifié deux rues où, finalement, on a visité à peu près 75 logements. 80 % des logements avaient des punaises. Avaient des blattes.
Des coquerelles.
Oui. Ouais. Mais là, il y avait des gens là-dedans qui nous disaient qu'ils en avaient depuis 20 ans puis 30 ans. Ça n'a jamais arrêté. Et on se rendait compte, finalement, qu'il y avait certains immeubles où les propriétaires faisaient ce qu'il y avait à faire. D'autres, non. Mais il y avait des places où... Et que le vrai problème, c'est qu'il y avait un fournisseur dans le coin. Il y avait une épicerie infestée qui infestait tout le monde.
Oh.
Alors, là, on aurait besoin de la ville, puis on aurait besoin des gens qui s'occupent de la salubrité dans les épiceries, etc.
Puis ils sont où, ce monde-là?
Si on réglait ce problème-là à l'épicerie, on réglerait le problème après dans les logements.
Mais la ville n'est jamais intervenue?
On ne vise que les propriétaires. Finalement, les propriétaires sont tenus d'exterminer, donc de payer les frais. Mais écoutez, après 3 mois, si le comportement du locataire, volontaire ou non, se répète, le problème va se répéter aussi. Ouais. Donc, les propriétaires deviennent toujours la cible. Alors, il y a des choses qu'on peut faire, mais il y a une limite aussi. C'est un problème de santé publique. C'est pas un propriétaire qui peut régler tout ça.
On revient après la pause avec vos commentaires. Michel, entre autres, va nous expliquer comment il voit ça. On se demande, est-ce que c'est facile de se trouver un logement propre, salubre et en même temps abordable? Désormais, on parle d'une pénurie de logements assez sérieuse. Même certains vont dire il y a crise du logement dans la région de Montréal. Dites-moi ce que vous en pensez. 514-790-9850. On va écouter un peu les auditeurs là-dessus. Bonjour, Michel.
Bonjour, madame. Ouais. Merci beaucoup de votre émission. Mon cas, c'est que j'ai habité dans un immeuble et ce, pendant longtemps, et à un moment donné, il y a un nouveau propriétaire qui a acheté les lieux.
Mm-hmm.
Et ce propriétaire, sans rien nous dire, a fait les baux en son nom propre et ont payé les loyers en son nom. Alors que l'immeuble, il avait transformé en entreprise, charte incorporée, un numéro, et il m'a fait toute la misère, il m'a torturé, me demandant tout le temps de partir, parce que j'avais fait longtemps là-bas, mon loyer était bas, et tout un tas de trucs. En fin de compte, j'étais désespéré.
Ouais.
J'ai déposé plainte contre lui à la régie du logement depuis 2011.
Avez-vous...
Et jusqu'aujourd'hui, la plainte n'a jamais été... on nous a convoqués à maintes reprises. Le monsieur n'a jamais mis pied. Et parce que et là, on me dit que je poursuis quelqu'un qui n'est pas la personne que je devais poursuivre.
Attendez, Michel, vous me dites que votre cause est devant la régie de logement depuis 8 ans?
Ça se 8 ans, madame, depuis 2011. J'ai même besoin d'aide. Je suis handicapé.
Je ne
sais pas quoi faire.
Ouais. Ben, peut-être Mme Corriveau peut aider. Ici, Marie-Josée, coordonnatrice au Frappru.
Je vous dis la vérité. J'ai tous mes documents.
Ouais.
Ce monsieur... Lui, il a fait une entreprise à...
On ne veut pas rentrer, Michel, vous me permettrez, on ne veut pas rentrer dans le détail parce qu'on ne finira pas, puis c'est dommage. Ça serait dommage pour tout le monde parce qu'on parle vraiment là, de salubrité, du fait d'être abordable. Mais dans ce cas-ci, Michel, je vous encourage sérieusement et sincèrement à aller consulter une association d'aide, peut-être le Frappru, Marie-Josée peut-être là-dessus. Peut-être donner un comité logement dans votre coin, une
association de locataires, mais en communiquant avec le Frappru, on va pouvoir le référer à l'organisme le plus proche de chez lui.
Parce que 8 ans, c'est quand même, faut beaucoup de patience ici. On a Linda avec nous. Bonjour, Linda.
Bonjour.
On vous écoute?
Bon, moi, je suis propriétaire.
Oui.
Et j'ai évincé une locataire en mettant mon fils dans le logement parce que dans un an et demi, j'ai eu 3 dégâts d'eau. Et un plancher fini parce que son chien urinait sur le plancher.
Mm.
C'était une mère monoparentale, une jeune femme que j'ai voulu louer pas trop cher pour donner une chance. Et c'est comme ça qu'on se fait remercier.
Mm-hmm. Donc, vous avez une expérience négative avec une locataire.
Très négative. Prochaine fois, le loyer va être beaucoup plus élevé puis beaucoup plus de conditions sur le bail à cause que quand tu es échaudé...
Ouais, effectivement.
Je ne veux pas répéter la même expérience.
Je comprends. Merci, Linda. Nancy, bonjour.
Oui, bon matin. Je suis d'accord avec Marie-Josée Corriveau quand elle, ou c'était peut-être vous, Isabelle, qui disiez tout à l'heure, il y il y a une obligation en tant que propriétaire de garder ses logements en état de salubrité. Et d'autant plus que quand tu as un bon locataire qui prend soin de ton logement, je pense qu'il est nécessaire, quand il y a des travaux majeurs à effectuer, d'effectuer les travaux, même si on n'est pas capable d'imputer à tous les locataires les frais que ces travaux-là ont engendrés. Je vous donne un exemple. J'avais de la moisissure dans mon logement. Le mur de briques était infesté de moisissure. Les linteaux devaient être changés. Et ça, c'est un dossier qui était devant la régie, que j'ai perdu d'ailleurs, en 2010. Et à ce jour, ça fait 9 ans, je passe encore devant ce logement-là. Et croyez-le ou non, Isabelle, Marie-Josée, c'est toujours pas réglé, ce problème-là. Ça veut dire qu'il y a des gens qui habitent là. Moi, à l'époque, j'avais un bébé. Et elle était malade quand elle était avec moi. Et quand elle était chez papa, ça fonctionnait. Sa santé était correcte. J'avais des dossiers de médecins. J'ai fait venir une compagnie d'analyse pour prendre des carottes dans les murs qui m'a coûté 1 000 $ que j'avais pas nécessairement. Et j'ai montré tout ça à la régie et j'ai perdu.
Vous avez perdu?
J'ai perdu. Le propriétaire avait une avocate béton qui m'a fait passer pour une nounoune en tout cas, c'est ça, on n'entrera pas dans les détails, mais j'ai perdu. Puis c'est ça qui est... je me suis même demandé après, et ce monsieur-là, pour ne pas le nommer, là, j'ai presque envie de le faire, là, si vous voyez son nom... fuyer, là. Ce monsieur-là possède plein de logements à Longueuil. J'ai rencontré par la suite un régisseur du bureau de Longueuil qui m'a dit, quand on voit ce nom-là sur nos dossiers, on sait
que c'est un mauvais propriétaire. Mais il y a certainement... il y a certainement, ça c'est sûr, Nancy, votre histoire est assez incroyable. Il y a effectivement des propriétaires qui sont là pour la business. Je veux dire, Andy Brouillette, à la Corpic, vous en voyez.
Écoutez, nous, on dit les mauvais propriétaires aujourd'hui, ils ne devaient pas être endurables à l'époque où ils étaient jeunes et locataires. Hein. C'est une question d'individus. Vous avez des bons, des mauvais. Maintenant, le tribunal a besoin de trancher sur des preuves. Alors, je comprends que dans certains cas, la preuve est difficile à faire. C'est vrai aussi pour les propriétaires. Et une chose qui est importante, qui avait été dit, je pense aussi avec l'auditrice précédente, celle qui est intervenue, le propriétaire a des obligations de garder le logement en bon état. Le locataire a aussi les mêmes obligations de préserver l'état des lieux. Malheureusement, quand l'un ne rencontre pas ses responsabilités, oui, ça va devant le tribunal. Et quand on a des délais de plusieurs mois, dans certains cas plusieurs années, c'est sûr que justice n'est pas rendue. Donc, ça nous prend un tribunal plus rapide et surtout des preuves solides là, pour faire valoir sa cause. Ça, c'est normal. Alors, voilà.
On a Sandra avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour. Moi, ça va pas vraiment. En tout cas, moi, mon histoire, OK, c'est que je suis dans un logement, un logement qui est supposé être à prix modique, OK? Pas un HLM, mais en tout cas, qu'importe. Et puis là, après avoir vécu les souris, les croquerelles, j'ai eu un dégât d'eau au mois de janvier. Ça a été le début de la fin de ma vie à ce moment-là. Le propriétaire m'a demandé, elle laissait partir les pompiers avec la première aide qu'ils pouvaient me donner, OK? Puis moi, je suis monoparentale avec un enfant de 4 ans, OK? Elle a rassuré les pompiers en leur disant, il n'y a pas de problème, je vais m'en occuper, les assurances vont payer, puis c'était le début de la fin. Moi, je suis sur l'aide sociale, OK? J'ai un enfant de 4 ans, j'ai eu beaucoup de difficultés dans la vie, c'est pour ça que j'habite où on m'a accordé un logement qui s'appelle avec pouvoir. Il s'est sous-loqué, c'est sur le gîte de Interloge, OK? Qui loue, qui sous-loue, ou bien qui fait un genre de... En tout cas. Après ça, ils m'ont fait dépenser tout mon argent pour payer l'hôtel, payer la nourriture, payer le parking pendant qu'il y a eu le dégât d'eau chez moi.
Vous n'étiez pas assuré du tout?
J'étais pas assurée, OK? Ouais. Et puis, quand je suis retournée, après la fin de semaine qu'on m'a accordé à l'hôtel, le propriétaire décide de me renvoyer dans le logement, OK, Interloge, la Marilyn Moret de Interloge, décide de me renvoyer dans le logement sans nettoyage, sans calinette, sans rien. Ça fait que là, moi, j'ai pas accepté, c'est sûr et certain. J'ai été jusqu'à à la ville de Montréal pour demander à un inspecteur pour venir vérifier, pour dire que le logement, il est plus habitable. Hein, pendant l'eau a coulé dans le logement. Finalement, l'inspecteur, je sais pas s'il buvait les paroles de qu'est-ce que Mme Morel lui a expliqué. Finalement, c'est moi, on me met dehors en ce moment pourquoi l'organisme dit que moi, vu que je ne vais pas à l'école, que j'étais supposée m'inscrire pour aller à l'école, je ne vais plus à l'école. Et là, maintenant, ils sont arrangés pour me mettre dehors à un mois de préavis. Je suis à la rue avec ma fille dans un moment où il y a une crise de logement à l'extérieur. Je n'ai même pas les moyens.
Je comprends. Nancy, j'ai envie de demander, Sandra, à Marie-Josée Corriveau, peut-être de réagir à l'histoire ici.
Bien, c'est sûr que des histoires comme celle-là, ça peut arriver que dans des secteurs sans but lucratif, il y a des accidents comme des fuites d'eau, etc. Dans un cas comme celui-là, encore une fois, moi, j'inviterais la personne à communiquer avec le comité de logement ou l'association de locataires pour faire valoir ses droits. C'est son droit de maintien dans les lieux. Cela étant dit, cette situation-là, si elle se vit dans certains secteurs ou dans certains immeubles sans but lucratif avec du logement à loyer modique, ça se vit aussi beaucoup dans le secteur privé. Et dans tous les cas, il faudrait parler de la pénurie de logements à l'heure actuelle et du fait qu'il ne se construit plus de logements pour les familles et que les logements qui se construisent sont petits et extrêmement chers, évidemment hors de la portée des gens qui sont sur l'aide sociale.
On a Ali qui est avec nous, qui est propriétaire. Bonjour Ali.
Oui, bonjour. En fait, moi, je suis récemment propriétaire. Ça fait juste une couple d'années, moi et ma femme. On a choisi Montréal, puis on a pris un immeuble à revenu, en fait. On est propriétaire occupant.
Ouais.
On pensait, on a sorti toutes notre économie, tout ce qui est REER, puis tout, mm-hmm. puis on a acheté. C'est sûr qu'on pensait que c'était notre retraite à long terme, mais on s'aperçoit que c'est pas vraiment la réalité parce que chaque sou qu'on investit dans l'immeuble, on a une hypothèque à payer, on a des taxes foncières à payer, on a une taxe scolaire qui s'augmente, puis tout l'argent qu'on met dans l'immeuble, puis on n'a pas le retour là-dessus, on n'a pas un retour d'investissement. C'est bien beau essayer de rénover. On sait que le parc immobilier à Montréal est vieillissant, puis ça nécessite. Mais avec le calcul de la régie du logement, ça aide pas. Puis c'est sûr que, vous savez, nous, on est juste comme des travailleurs normaux, mais il y a du monde qui ont eu des héritages, puis qui reçoivent juste les loyers, puis comme c'est leur gain à 100%. Mais nous, on est endettés, puis le loyer, ça nous aide, mais toujours, on a de la résistance quand on donne l'avis d'augmentation, l'avis de renouvellement du bail, puis on essaie d'expliquer, c'est bien beau d'expliquer aux locataires que l'argent de l'augmentation, ça va être comme pour investir dans l'immeuble, ouais. C'est pas pour le mettre dans nos poches.
Je sais, je lis beaucoup de commentaires, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, je faisais le parallèle avec l'industrie du taxi, un parallèle que Marie-Josée Corriveau disait n'était pas évident, mais c'est parce qu'il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent, bien, si on est pour donner un demi-milliard de dollars à l'industrie du taxi, moi, comme propriétaire, je veux aussi qu'on me rembourse tout ce que j'ai mis dans mon logement et que, finalement, comme entre autres Sophie, qui me dit, moi, propriétaire, j'exige que je veux qu'on me rembourse tout ce que j'ai perdu dans mes locataires, partis sans payer ou que la régie a laissé faire. Je perds de l'argent à cause de la régie, qui est un organe gouvernemental, donc. Parallèle n'est pas si fou, finalement, mais on pourrait l'élargir à bien du monde. Mais il y a effectivement des propriétaires qui disent, ben moi, à cause des politiques du gouvernement qui sont trop pro-locataires, c'est un peu la sensation que bien des propriétaires ont, M. Brouillet.
Oui, Ali, qui vient d'intervenir, a raison. Ouais. Ceux qui ont acheté récemment des petits immeubles ne peuvent pas financer l'immeuble et les travaux et payer tous les frais avec les loyers qui sont pratiqués.
C'est forcément déficitaire, c'est ça.
Les prix ont explosé. Les propriétaires ne vendront pas leur immeuble pour 300 000. Là, ils vont plus le vendre à 600, 700 000 pour un tout petit immeuble. Alors, comment voulez-vous arriver et pouvoir financer les travaux? C'est la raison pour laquelle de plus en plus d'acheteurs achètent l'immeuble pour y loger leur propre famille. Donc, il y a des reprises de logement. Il y a une perte d'intérêt dans le mode locatif. Pourquoi? Parce que ce n'est plus rentable. Alors, on crée une rareté qui se répercute ensuite sur l'ensemble du
marché.
Mais
ça va juste être de plus en plus pénible pour les locataires,
attendez que les taux d'intérêt montent, vous allez voir que ça va être beaucoup plus dramatique que ce qui se passe maintenant. Et les montants de 100 000, 200 000 $ de travaux à faire, des fondations, des murs de briques, des toitures, les propriétaires, les petits, les salariés ne sont pas capables de financer ces travaux-là.
On va aller à la pause. On revient tout de suite après. Il nous resterait peu de temps. France, comment vous réagissez par rapport à...
Parce que j'en avais beaucoup à dire, mais en tous les cas, je vais commencer. Moi, je suis propriétaire.
Oui.
En 2 ans, la Ville de Montréal nous a augmenté les taxes municipales seulement de 800 $
Mm-hmm.
La première année, on a augmenté de 15 $ La deuxième année, de 13 $ sur le 800.
Mm-hmm.
On a un locataire qui nous a causé.
À vos locataires, vous voulez dire? C'est ça que vous voulez dire? À vos locataires, vous avez.
Oui, aux locataires, c'est bien ça. Mm-hmm. Alors, on a un locataire qui nous a occasionné beaucoup de troubles. Il a créé la brise-bille dans l'édifice. Mm-hmm. Ils ont même appelé la ville pour savoir les taxes et puis tout le tralala. Nous, on a fait des rénovations. On a fait le toit, on a fait les fenêtres, on a fait l'électricité, on a fait enfin les portes et tout et tout. Tantôt, on parlait avec le représentant là, des propriétaires. Le locataire ne paie pas nos rénovations. On a droit à 3% du montant de rénovation déductible à l'impôt. Alors, il nous rembourse pas, le locataire rembourse pas la valeur. Quand vous calculez les assurances, on va débloquer s'il y a un évier, un bain qui bloque. Ouais. Ils nous appellent pour une ampoule dans le passage à l'échanger. On fournit l'eau chaude et le logement est bien en bas de 800 $ par mois. Ouais. Puis des beaux grands logements bien entretenus.
Fait que vous êtes découragé, vous, dans le fond, France?
Non, je suis pas découragé. Je continue, mais je tiens à dire que la régie du logement, malheureusement, aide pas les bons propriétaires.
Ouais.
En plus, j'aurais un fait très important. Le locataire n'a pas de bail. Le propriétaire a un bail, mais lui n'en a pas. Quand il décide de s'en aller, il nous en met un autre à sa place. Et puis, je vais vous dire franchement, ça fait pas toujours notre affaire.
Ah oui, vous savez dire qu'il sous-loue à quelqu'un et vous avez pas le loisir de refuser le...
Une cession de bail. Donc, le propriétaire perd le contrôle.
Ouais.
On sous-loue, on cède à quelqu'un d'autre.
Ouais. Daniel est avec nous. Rapidement, Daniel, bonjour.
Rapidement, c'est une longue histoire. Moi, j'habite depuis 20 ans sur les doigts à Montréal, de Côte-des-Neiges.
Ouais.
Et avant ça, j'avais aucun problème avec le propriétaire. Depuis 5 ans, il y a une femme qui a 7 ou 8 buildings dans Montréal.
Ouais.
Elle passe 7 ans à la cour. Elle passe 7 ans à la cour à attaquer les gens. Si tu refuses une augmentation, elle t'emmène à la cour. Si ça marche, ça marche. Ça marche pas, ça marche pas. Et ce qu'elle a compris que dans
à la régie du logement, vous voulez dire quand vous dites la cour?
Oui, monsieur, ouais, monsieur.
À la régie. Hein.
Elle s'amène, c'est une businessman qui a des avocats, elle s'amène avec des faux reçus. Des faux reçus. J'ai refait le toit, 16 000 $. Mais tous les locataires qui étaient là, nous étions 10. On a dit, mais madame, s'il n'a pas fait le toit, faire le toit, c'est des échafaudages. Elle falsifie les reçus, elle met son nom, elle fait montrer. Et le régisseur, il dit, même si c'est un faux reçu, ça ne va pas changer grand-chose. Bon. Alors après, moi, ici, j'ai la ville de Montréal qui est venue, qui a constaté que je n'avais pas de chauffage. Les fenêtres étaient mal isolées. C'est un building qui a été construit dans les années 1955, imaginez.
Ouais, ouais.
Et puis elle attend pour le vendre. Alors elle n'investit pas, elle attend pour le vendre.
Ouais. Et ça effectivement, c'est une situation, c'est qu'il y a beaucoup de propriétaires qui font plus rien, qui attendent juste que la valeur de leur propriété augmente. Et c'est pour ça qu'on est réduit aujourd'hui avec une crise du logement. Là.
Oui, mais ça, il y aura une limite. Là. Ça ne peut pas éternellement durer. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir toujours un acheteur prêt à payer le gros prix pour un immeuble en mauvais état. On a déjà dépassé ce qui aurait dû être raisonnable. On va frapper un mur. C'est pas dans les prochains.
Mais vous dites, hein, c'est pas mal le Frappru et d'autres groupes du genre qui ont contribué à la rareté des logements.
C'est sûr que plus on contrôle les loyers, plus on s'oppose à ce que le propriétaire puisse rénover avec la réglementation, parce que toutes sortes de réglementations, ben, on contribue à la rareté. Il y a un désintéressement d'investir.
Le Frappru, ce qu'il revendique essentiellement, c'est le droit au logement, c'est que le gouvernement, les gouvernements assurent que les propriétaires respectent la loi sur le régie du logement, effectivement, parce que c'est la façon de s'assurer qu'on n'atteigne pas des loyers comme on en retrouve à Toronto et à Vancouver. Cela dit, le Frappru, ce qu'il revendique essentiellement, c'est du logement social pour les ménages à faible et à modeste revenu. À l'heure actuelle, c'est des gens qui se retrouvent à un haut risque d'être à l'itinérance, d'être à la rue, incluant des familles, parce qu'il y a un manque de logement. Et le manque de logement, c'est pas le Frappru qui l'a créé, c'est le marché.
Ouais.
C'est la façon dont on gère à l'heure actuelle le logement locatif.
Moi, ce qui m'apparaît clair, c'est plus les immeubles sont chers, moins les propriétaires sont capables de les rentabiliser, moins les locataires sont capables de les louer.
Mais on s'en va dans le mur.
On s'en va vraiment dans un mur. Et quand on s'en va dans le mur, dans l'immobilier, ça, on l'a déjà connu il y a un certain nombre d'années, on s'en va vers une détérioration des logements qui amène des grands problèmes d'insalubrité. Et je suis pas sûr qu'on est capable de changer à court terme le prémisse.
Le rapport qu'ils ont, ces deux-là.
Mais il y a une chose certaine, c'est qu'on a besoin de règles claires, que ce soit au niveau de la ville face à l'insalubrité, ou que ce soit au niveau de la régie, des règles claires qui vont pouvoir encadrer tout ça. Sans ça, c'est clair que ça va dans le mur.
Merci beaucoup à tous les trois. Merci bien. Hans Brouillette de la Corpée, Carole Lévy, Maheu Extermination, Marie-Josée Corriveau du Frappe-Roux. Madame Corriveau est fâchée. Oui. On revient tout de suite après les nouvelles. On continuera sur ce dossier. C'est un grand dossier, locataire-propriétaire. Oui. Merci d'avoir été là tous les trois.